Album littéraire et musical de la Minerve, Le Poisson d'Avril. Voici un usage à peu près oublié aujourd'hui, et cependant il n'y a pas longtemps encore, que le Poisson d'Avril était en honneur, non pas précisément à Paris, mais dans les provinces où l'attachement aux anciennes coutumes est singulièrement tenace. L'origine de cet usage est obscure et presque inconnue. Mais avant de rechercher les traces, permettez-nous de vous raconter un des plus curieux poissons d'avril dont le bon vieux temps nous a légué le souvenir. C'était vers la fin du XVIIe siècle. Il existait à Caen un brave abbé, appelé l'abbé de Saint-Martin, original, toujours crédule au dernier point, bonhomme par-dessus tout. Ce personnage était, pour les sociétés de la ville, un divertissement que les habiles faisaient alterner avec la lecture de la Gazette de France ou du Mercure galant. Notez que le digne ecclésiastique sacrifiait aux muses et se proclamait un dévoué serviteur des sciences et des lettres. Mais ses ouvrages étaient à la hauteur de ses idées et de sa conduite. Il publia entre autres un livre bizarre, singulier, absurde, intitulé « Le moyen de vivre en santé au-delà de 100 ans ». Or, il était difficile, après cela, de ne pas jouer quelques bons tours à l'auteur. Les nouvelles de la cour en fournirent bientôt l'occasion. Les gazettes étaient remplies de détails circonstanciés sur l'arrivée en France et sur la réception à Versailles des ambassadeurs siamois, venus à point pour rendre un peu de gaieté au pauvre grand roi, tout brisé par le remords dont sa conscience était bourrelée. C'était une distraction que le confesseur pouvait facilement permettre. Comme bien vous pensez, les sociétés de Caen s'entretinrent longtemps de cet événement qui faisait grand bruit, et notre bon abbé ne fut pas des derniers à s'enquérir des histoires merveilleuses racontées à ce sujet. Il ne parla plus, ne pensa plus et ne rêva plus qu'en embrassant Bassan siamoise. Alors une idée des plus folles traversa la cervelle de quelques gens du bel air. Certains de trouver appui dans toute la ville, plus certains encore d'avoir un auxiliaire puissant dans la crédulité de leurs victimes. Le 1er avril arrivait dans quelques jours. On annonça à M. l'abbé de Saint-Martin que Sa Majesté le roi de Siam, après s'être fait lire son admirable livre, avait été si charmé de l'incomparable découverte que ce livre renfermait qu'elle avait résolu d'envoyer à l'auteur des ambassadeurs pour lui offrir le rang de mandarin et le titre de son premier médecin. Un homme est toujours faible à l'endroit de la vanité. Un auteur doit l'être deux fois en sa double qualité d'homme et de lettré. Toute la ville s'en mêla. Les gens les plus graves y prêtèrent volontiers les mains, les sévères magistrats tout comme les autres. Malgré leurs fonctions, ceux-ci aimaient aussi à rire et ce divertissement nouveau apportait un peu de variété à la monotonie de la question et de la torture, distractions ordinaires et dont ils se contentaient, faute de mieux. Tout fut prévu. Il y eut autorisation du roi de France pour conférer à l'abbé les hautes dignités de mandarin et d'esculape. La mascarade fut complète. Le bonhomme dut se croire mandarin en toute sécurité, et ce fut grand plaisir de le voir revêtu et chamarré des insignes de ses nouvelles fonctions. Mais le jour d'avril passé, l'abbé ne put croire à ce poisson d'un nouveau genre, et 2 années s'écoulèrent avant qu'il voulût bien reconnaître qu'on s'était moqué de lui. Aussi, nos pères, pour en perpétuer le souvenir, nous ont laissé un témoignage écrit. Cette histoire se passait 15 ans après la première représentation du bourgeois gentilhomme. Mais revenons. Quelle est l'origine du poisson d'avril ? Cette question a déjà été débattue avant nous et plusieurs étymologies ont été proposées. Les uns prennent l'expression à la lettre, croient que cette coutume serait venue, je ne sais trop comment, de ce que le mois d'avril est peu favorable à la pêche, et que plus d'un gourmand s'est vu à cette époque privé d'un plat délicat sur lequel son palais avait compté. Cette explication est à la rigueur suffisante pour le proverbe « manger du poisson d'avril ». Mais quel rapport y a-t-il avec les mystifications du premier jour de ce mois ? Aucun que je sache. Un autre vient vous dire que ce proverbe a pris naissance sous Louis XIII, parce qu'un prince de Lorraine, retenu prisonnier dans le château de Nancy, se serait sauvé le premier jour d'un mois d'avril quelconque en traversant la Meuse à la nage. Et les Lorrains auraient dit avec infiniment de raison qu'on avait donné aux Français un poisson à garder. Nancy fut prise en 1635, or le dicton remonte un peu plus haut. Enfin arrive une troisième et dernière opinion. Celle-là, nous la croyons bonne, ou du moins satisfaisante, car en fait d'étymologie, il faut peu affirmer, croire encore moins et douter toujours. Dans les premiers temps du christianisme, le clergé, afin de graver plus puissamment dans l'esprit des populations le sentiment et le souvenir des mystères de notre religion, eut recours à des représentations scéniques. Le peuple est toujours avide de spectacles et son imagination, éternellement jeune, se laisse impressionner facilement. Il venait aux grandes fêtes de l'année écouter pieusement ces pièces religieuses qui n'étaient pour lui qu'un commentaire vivant de l'évangile du jour. Rien de profurie ne se mêlait à ces jeux, si j'ose employer ce mot, et ce ne fut que plus tard, au XIIIe siècle, que des éléments profanes vinrent se mêler à ces cérémonies religieuses et en modifier à la longue le caractère tout sacré. Or, la Passion arrive le 3 d'avril. Dans les premiers jours de ce mois avaient lieu les représentations dont j'ai parlé, et le peuple, écoutant avec terreur, voyait le Christ raillé et envoyé de Caïphe à Pilate et de Pilate à Caïphe. Plus tard, l'habitude rendit la terreur moins grande, et quelques railleurs impies, en venant le soir de l'église, s'amusèrent à répéter la scène du matin aux dépens de leurs amis ou de leurs voisins. De là l'origine probable de ce jeu du 1er avril, et le nom de Passion, passant de bouche en bouche et n'étant plus guère compris, devint le mot poisson. Ce n'est qu'un des nombreux exemples impies de noms devenus intelligibles après avoir subi toutes sortes de transformations.